Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Le jeudi arrive. En sortant des cours, il dit à Chantal, « Je ne peux pas rester avec toi cet après-midi. Je dois voir quelqu'un. » Elle lui fait, « Je sais ta belle-mère. » Il lui dit, « Oui. » Elle lui dit, « Bien, eh bien, je te laisse. » Elle l'embrasse sur la joue et le quitte. Lui, furieux, va à son rendez-vous. Il décide de faire rapidement la chose. Mais il appréhende, parce qu'il se dit qu'elle risque de faire une scène. Que ça n'en finira plus. Eh bien, tant pis, il partira avant la fin. Elle, dans son studio, elle appréhende, elle a peur de le perdre et se dit qu'elle fera tout pour le garder. Mais surtout qu'elle doit garder son sang-froid et ne pas dire des choses qui doivent le fâcher et faire une rupture définitive. Non, elle ne veut pas une rupture définitive. Il est rentré dans son allée. Inquiet, agacé. Il se dit qu'il va perdre son temps avec elle, pour rien. Elle devrait comprendre que c'est fini, et voilà tout. Si elle était intelligente, il se quitterait bon copain. Et si elle veut, elle pourrait trouver un autre jeune. Il pourrait même lui en présenter des copains. choisiraient ensemble. Il y en a qui demanderaient que ça, avoir une femme qui s'occuperait d'eux, une vieille, pleine aux os, et qui sait faire l'amour. Les jeunes demandent que ça, mais non, elle veut que lui. Il arrive sur le palier, furieux, énervé. Il sonne, en se disant, si elle ne pouvait pas être là. La porte est ouverte, il est furieux. Elle a sa mine d'enterrement, de femme blessée. Ça va être une scène, elle lui dit. Entre. Il entre. Elle ferme la porte et cherche à l'embrasser. Il se retire un peu et lui donne un baiser sur le front. Il lui dit, viens t'asseoir. Il lui dit, non, ce n'est pas le temps. Elle lui fait, alors tu es venu pourquoi? Il lui dit, parce que tu m'as dit de venir. Alors me voilà. Tu veux me voir? Je suis là. Elle est triste. Elle se dit que c'est fini. Mais elle est furieuse d'être lâche comme ça. Elle lui dit, c'est pour aller voir l'autre fille que tu es si pressée. Il lui dit, si tu le dis, elle lui dit, hé, nous. Il lui dit, c'est bien fini, voilà. Elle lui fait, et tu me dis ça comme ça. Il lui dit, oui. Elle lui fait, tu me dis ça comme ça, après tout ce que j'ai fait pour toi. Il lui dit, ce que tu as fait pour toi aussi, parce que c'était aussi pour toi, pour te faire plaisir, parce que ça avait été pour, que pour moi, tu ne l'aurais pas fait. Elle lui fait dépit. Et tu étais bien content de m'avoir, et même heureux. Il lui dit, et toi aussi. Maintenant, je ne veux plus. Tout ça s'est passé, nous avons passé du bon temps et c'est fini. Voilà, la vie change. Elle lui fait, et tu me dis ça comme ça. Comme ça, tu es un véritable petit salopard, un fumier. Mais moi, elle se tait. Elle se dit qu'elle doit rester calme, ne pas faire l'inévitable, l'irréversible, parce qu'il ne cherche que ça. Elle va à la table basse, prend une bouteille de cognac et se sert un verre. Tu en veux? Non, elle lui dit, tu ne risques rien. Et puis lui, il est neutre, sa douceur est la même. Il reste neutre, il est toujours le même. Dans les moments difficiles. Alors, tu peux? Il lui dit. Elle boit son verre. Non, merci. Ça lui fait du bien. Pose le verre. Il la regarde et hausse les épaules. Puis lui dit, bon, eh bien, je m'en vais. Là, elle panique, lui fait. Attends. Il va vers la porte. Il lui dit, quoi? Elle lui fait, tu vas pas me laisser comme ça? Il lui dit, mais c'est fini, fini. Elle lui dit, tu vas me laisser tomber comme une vieille chaussette? Il lui dit, et oui. Tout d'un coup, elle devient furieuse et lui dit, non, je ne veux pas, c'est pas juste. Il y en a assez, ça a assez duré. Il fonce vers la porte. Elle est entre la porte. Il lui dit, laisse-moi passer. Elle lui fait, non. Il lui dit, laisse-moi s'y passer, je te dis. Furieux. Il la pousse vers l'appartement. Elle se cramporte dans la poignée de la porte. Elle est en sueur, à peur. Sans que c'est fini. Lui, furieux, d'un geste brusque, Il la tire. Et la fait tomber à terre. Ah Puis, il ouvre la porte. Il sort de l'appartement. Elle se relève. Lui court après. Il est dans le couloir. Il descend les marches. Elle lui crie, comme une folle, par-dessus la rampe. Je dirai tout. À ta copine, ce que tu fais à ton frère. Furieux, il remonte les escaliers. Cours à elle. Elle le regarde fièrement, comme une perdue. Lui, désespéré, énervé, fonce sur elle, la prend bas le corps, et d'un geste surhumain, la fait tomber par-dessus la rampe. Elle est tombée de côté. Elle ne bouge pas. Elle est tombée de quelques marches. Elle ne bouge pas. La tête à terre. Il se sauve en courant. L'enjambe. Elle n'a que ce qu'elle mérite. Il se sauve en courant. Les portes s'ouvrent. Les gens sortent. Il est sorti de l'allée. Il se dit qu'il a tué et que tout le monde va le savoir. Je s'ouvre en courant. Il se dit que la police va sûrement le prendre, qu'il est perdu à cause de cette femme, qu'il a dû la tuer. Les gens de l'immeuble ont appelé les pompiers et la police. Ils sont arrivés. On a amené Carole. Elle n'est pas morte mais assommée. Elle est menée à l'hôpital. Comme on a vu sur ses papiers qu'elle était, qu'elle faisait partie du groupe qui avait la clinique Ricain Genetou. Alors on va la mener là-bas. On l'examine. Elle n'a rien de grave. Elle est dans une chambre avec des pansements et goutte à goutte. Un policier, un jeune homme, grand, mince, chantin, costume gris, bien stylé, et habillé comme un homme du monde, vient l'interroger. Il lui demande « Vous allez mieux ?» Elle lui fait « Oui, merci. » Il lui dit « Je suis le commissaire Mathieu Bradic. Et je suis venu pour vous interroger, pour savoir ce qui vous est arrivé. » Elle lui dit « Je suis tombé. » Il lui demande « Seul ?» Elle lui fait « Oui. » Il lui dit « Pourtant ?» Elle lui fait « Il vaut mieux dire que j'étais seul. Et puis, c'est une histoire idiote. J'étais pas dans mon état. Vous savez, les femmes, des fois, lorsqu'elles sont près de certains hommes, comme vous, par exemple, vous êtes tout à fait le type d'homme qui font tourner les têtes des femmes. » Il sourit, lui dit « Merci. Alors un accident banal ?» Elle lui dit « Oui. » C'est ce qui marque sur son rapport. Lui, Eric, est dans tous ses états. Il n'ose pas rentrer chez lui. Il se dit qu'il va être arrêté. Il va chez Chantal. Il se dit, c'est elle-même, elle doit m'aider, comprendre mes peines comme mes joies. Il sonne à l'interphone. Oui, il dit, je suis Borch, Eric. J'aimerais parler à Mademoiselle Chantal. On lui dit, bien, je vais voir. Il attend et se dit que peut-être il a fait une bêtise. Juste où il pense à ça, oui, Mademoiselle veut bien vous recevoir. Entrez. Trop tard. Il entend le déclic du portail. Et il entre dans la cour, va vers la maison. Il se dit, je fais sûrement une bêtise, mais que faire? Il va sonner à la porte. Il sonne à la porte. Elle s'ouvre. C'est une domestique, une jeune femme dans les 25 ans, blonde, grande, mince, habillée en homme. Elle dit, entrez monsieur. Il entre, elle ferme la porte derrière lui. Suivez-moi monsieur. Et elle le mène au premier étage. Frappe à une porte et le fait entrer. C'est le salon Louis XV. Chantal est debout. Elle a l'air si pure, blanche, dans sa robe bleu marine de petite fille. Elle va à lui et lui dit « Tu as fait vite ?» Tu as vite fini ? Il lui dit timidement. Oui, mais il voit qu'elle n'est pas bien. Elle lui dit, ça ne va pas ? Il ne dit rien. Elle lui dit, viens, allons nous asseoir. est. Elle le fait asseoir sur un canapé et elle s'assoit à côté de lui. Il demande, qu'est-ce qui ne va pas? Il lui dit, effondré, si tu savais. Elle lui dit, je peux tout entendre. Il lui dit, je l'ai tué. Elle le regarde effarée, mais ne veut pas l'effaroucher. Elle veut rester neutre, ne pas être surprise ou en colère, ne rien montrer. Elle veut être forte. Elle lui dit calmement, « La femme d'hier ?» Il lui dit, « Oui. » Elle ne dit rien. Il lui dit, « Elle voulait me faire chanter. Alors j'ai paniqué. Et en la poussant, elle est tombée dans les escaliers. Et elle est morte. » Elle lui dit, « Ce n'est qu'un accident. » Il lui dit, « Non. Et les gens de l'immeuble sont témoins. Je suis perdu. » Elle demande, « Mais pourquoi ?» Il lui dit, « Parce qu'elle voulait me faire chanter. Voilà pourquoi. » Elle lui dit, « C'était pour quelque chose de terrible ?» Il lui dit, « Oui, enfin. Elle était jalouse. » Elle lui dit, « De moi ?» Il lui dit, « Oui. » Elle demande, « Elle était ta maîtresse ?» Il lui dit, « Elle aurait voulu. » Elle lui dit, « Tu es plus jeune qu'elle. » Et elle devait remplacer ta mère. C'est elle la coupable. Il lui dit, « Peut-être, mais la police pensera autrement. » Elle lui dit, « Tu n'as qu'à tout leur dire. » Il lui dit, « Que dois-je faire ?» Elle réfléchit. Elle lui dit, « Je crois ce qu'il vaudrait peut-être mieux, c'est que tu rentres chez toi et attendes. » Il lui dit, « J'aimerais mieux c'est fuir avec toi. » Elle lui dit, « Surtout pas, tu aggraverais ton cas et prouverais que tu es vraiment coupable. » Il lui dit, « Je ne vais jamais rentrer chez moi. » Elle lui dit, « Il le faut. » Elle se lève, lui tend la main, « Viens. » Il se dit, « Elle veut se débarrasser de moi parce qu'elle a peur d'avoir des ennuis avec la police. » Et elle lui dit, « Viens. » Il se lève et elle l'amène vers la sortie de la maison. Une fois dehors, elle lui dit, nous allons prendre un taxi. Et il marche pour trouver un taxi. Ils en voient un arriver. Elle lui fait signe de s'arrêter. Ils entrent dans le taxi. Elle donne l'adresse d'Eric. Eric se dit, elle m'envoie à la mort. Il lui dit, tu m'aimes? Elle lui dit, mais oui, bien sûr. Il dit, pourtant, tu m'envoies là-bas? Elle embrasse à la joue et lui dit, pour ton bien, chéri. Et le taxi se met en route. s'est arrêtée devant son immeuble. Elle lui dit « Allez, te faut sortir maintenant. » Il lui demande « Tu ne viens pas avec moi ?» Elle lui dit « Non, allez, va vite. » Elle l'embrasse et ouvre la portière. Il sort du taxi. Il reste sur le trottoir. Elle lui fait un signe amical et lui fait signe de rentrer. Et le taxi s'éloigne. Seul sur le trottoir, il va rentrer dans son immeuble. Il se dit qu'il est perdu. Tout le monde va savoir ce qu'il a fait. Il prend l'ascenseur. Tout le monde va savoir ce qu'il a fait. Carole, son frère, il ira en prison. Il ne verra plus son frère. Arrivé à l'étage, il sonne à l'appartement. Résigné. La porte s'ouvre, c'est la bonne. Bonjour monsieur. Il entre. Il ferme la porte. Il demande. Mes grands-parents sont là? Elle lui dit. Il n'y a personne monsieur. Ils ont reçu un appel téléphonique. Il est arrivé un grand malheur. Il est tout rouge et apeur et se dit. Il est encore temps que je parte. Et puis, je suis perdu. Alors, il va dans sa chambre. Et s'allonge sur son lit, tout habillé. Il attend. La direction de la clinique Riquin, je tout. Lorsqu'ils ont appris que Carole était chez eux et qu'elle avait eu un accident et peut-être même une tentative de crime, comme elle est en affaire avec le groupe Franc-Blanc, le directeur s'est dit qu'il fallait peut-être prévenir la famille pour étouffer l'affaire. Il a convoqué la famille Borch. Auguste est allé d'urgence avec Amélie à la clinique. À l'accueil, il dit à l'hôtesse, une blonde, tailleur bleu roi, « J'ai rendez-vous avec monsieur le directeur, monsieur Laurent Lebrun. » Elle demande, « Vous êtes ?» Il lui dit, « Monsieur et madame Borch. » Elle regarde sur son ordinateur et lui dit nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.